Sud Radio, service compris.
Véronique Jacquier.
Bienvenue à l'écoute de Service Compris. En cette période de fête, on est entre Noël et le jour de l'an. Je vous propose de mieux connaître ceux qui vous dispensent leurs conseils, qui vous éclairent tout au long de l'année. Le professeur Boyan Christophorov, professeur de médecine, qui est avec vous le mercredi. Et puis Serge Maître, le secrétaire général de la FUB, l'association française des usagers des banques. Alors comment ça se passe? Eh bien, vous nous écoutez tranquillement, sereinement. Peut-être êtes-vous encore en train de déjeuner. En tout cas, vous allez écouter nos spécialistes. Ça vous donnera grandement envie de leur poser de sacrées questions à la rentrée via le 0826 300 300, bien sûr, via notre boîte mail contact@sudradio.fr et via notre page Facebook Sud Radio Service Compris. Je vous invite à aller visiter notre page et à nous laisser des questions et des suggestions pendant cette période de vacances. Professeur Boyan Christophorov, bonjour.
Bonjour Véronique.
Alors, je suis très heureuse de vous accueillir en cette période de fête pour deux raisons. La première, c'est qu'il est évidemment passionnant de connaître votre parcours et de savoir comment vous êtes devenu un grand professeur de médecine, ancien chef interniste à l'hôpital Cochin, gastro-entérologue, vous allez nous expliquer tout ça. Et puis, du coup, avec toute votre science et votre expérience, vous allez nous dire sur quoi vous voulez mettre un coup de projecteur pour évidemment faire passer des messages et des conseils aux auditeurs de Sud Radio et de Service Compris. Tout d'abord, professeur, parce qu'on a fait des émissions passionnantes avec vous, que ce soit sur le diabète, l'hépatite B, l'hépatite C, comment devient-on, alors c'est un peu prétentieux quand on présente les choses comme ça, mais professeur de médecine, Boyan Christophorov, parce que professeur de médecine, ça c'est un titre, donc c'est encore autre chose. Mais comment vous avez été d'abord gastro-entérologue, ensuite chef de service interniste à l'hôpital Cochin? Qu'est-ce que c'est être un interniste? Bref, on a besoin de savoir.
C'est une carrière médicale. Moi, je suis un immigré. Je suis bulgare, je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans et demi.
Comme le dit votre nom, Christophorov.
Christophorov, tout à fait.
Celui qui porte le Christ, c'est ça?
Si vous voulez, c'est Christophe, faut pas exagérer. Et je ne commence jamais une période, une phase biographique sans rendre hommage à la France. Je suis arrivé en France le 31 mars 1947 avec mon père et ma mère, une valise et deux cartons à chapeau, parlant presque pas français. Et me voilà, j'ai pu faire, grâce à la France, les études, suivre un cours tout à fait normal.
Vous étiez adolescent quand vous êtes arrivé en France?
10 ans et demi.
10 ans et demi, d'accord.
10 ans et demi, vous savez, je n'aime pas beaucoup, on dit du mal de la France, on se plaint, on dit que c'est un pays de beauf, je ne sais pas quoi, je ne supporte pas ça. J'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour ce pays. Voilà, alors ensuite j'ai suivi les études habituelles, le lycée Louis le Grand, la faculté de médecine, c'est une carrière tout à fait banale, et à cette époque on passait le concours de l'internat, maintenant ça s'appelle l'examen classant, et donc j'ai choisi une spécialité pendant 4 ans de gastro-entérologue, et je suis devenu gastro-entérologue, j'ai appris à me servir des appareils techniques de cette discipline, et puis je suis devenu le chef d'un service de médecine interne. La médecine interne, ça a été à l'origine le point de départ de toutes les disciplines, et quand toutes les disciplines ont fini par se créer, cardiologie, rhumatologie, néphrologie, etc., il est resté au milieu un noyau, à la fois de maladies rares qui ne trouvaient pas preneur, et puis d'un besoin de synthèse entre les différentes disciplines. Et j'ai occupé cette place.
Et qu'est-ce qu'on appelle maladie rare de nos jours?
Il y a des rares, il y a des définitions, c'est une pour 4000 habitants,
donc
etc.
Donc les maladies orphelines, non?
Non, il y a des maladies rares qui ne sont pas orphelines. Les maladies orphelines, c'est des maladies dont vraiment on ne sait ni de père ni de mère ce qu'elles sont. Tandis que les maladies rares, c'est par exemple, un exemple, c'est la maladie de Crohn. La maladie de Crohn est une maladie digestive, mais elle est classée parmi les maladies rares, parce qu'il y a des critères statistiques.
Mmh. Et vous êtes tombé dans la potion magique de la médecine tout petit?
Non, pas du tout. Mon père était spécialiste de littérature française, et ma mère était prof de français. Donc non, c'est que tous les gamins, on n'a pas la vocation tous, hein, loin de là. On dit tiens, j'ai fait une année d'hypocagne au lycée Louis le Grand. Puis au bout d'une année d'hypocagne, j'ai eu envie de faire la médecine, j'ai fait la médecine, voilà. Je n'avais aucune vocation précise, je voulais être médecin, voilà.
Vous étiez brillant en tout, hein, parce
non,
que pour faire hypocagne
bon
au Louis
élève,
le Grand
enfin,
et ensuite réussir le
non,
concours
non,
de
non,
médecine.
Non, c'était Louis le Grand, c'est parce qu'on habitait à côté. Hein.
Oui, bien sûr, mais enfin, encore fallait-il être en capacité de suivre les études à Louis le Grand, c'est là-dessus que se fait la sélection, et à l'époque c'était déjà le cas, professeur. Alors, vos souvenirs d'interniste, qu'est-ce qui vous a marqué le plus justement quand vous exerciez à l'hôpital, parce que vous exerciez toujours, hein,
toujours,
des consultations.
J'exerce toujours, oui.
Mais en tant que chef de service,
j'ai vécu les différentes réformes et techniques, mais je crois que ce ne serait pas très, très intéressant ni très, très court de l'exposer. J'ai vu défiler la médecine. Quand j'ai commencé mes études, l'une des grandes maladies, c'était la tuberculose. J'ai vu arriver l'hépatite B, l'hépatite C, le sida. Je les ai vus se guérir en grande partie. J'ai traversé une période de la médecine qui était passionnante.
Et là, qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes médecins qui se lancent? Parce qu'on a déjà fait des émissions et on va en parler dans les dans quelques minutes sur la pénurie de médecins.
Il n'y a pas de plus beau métier.
Il n'y a pas de plus beau métier
d'abord,
que d'être médecin.
On apprend des choses, on connaît les gens, on a des relations avec eux, il y a des relations affectives, il y a une empathie. Et puis alors la médecine, c'est très vaste. Vous avez des gens renfermés, ils vont choisir une sous-discipline, ils vont regarder au microscope, ils vont être enfermés dans leur laboratoire toute la journée. Puis de l'autre côté, vous avez des types qui sont dans un laboratoire pharmaceutique, ils font du marketing, ils essayent de faire vendre du truc et des choses, etc. Donc vous avez tout l'éventail possible des talents.
Donc il y a 1000 métiers en
médecine. Ah, 1000 métiers en médecine, oui, ça il faut y aller.
Et alors, vous allez de temps en temps en Afrique, qu'est-ce que vous faites à l'étranger?
J'ai des cours dans une université au Cameroun, oui, tous les ans.
D'accord. Et alors là, c'est une autre planète en termes de médecine.
Ah, tout à fait. Ça, je n'ose pas vous raconter tout ce qui s'y passe.
Oui, mais vous pouvez nous donner des anecdotes.
C'est un pays où il n'y a, comme dans tous les pays d'Afrique, il n'y a pas de couverture sociale. Donc les seuls médicaments gratuits sont ceux que les organismes internationaux donnent pour le sida. Mais c'est tout. Le reste, si vous n'avez pas d'argent, vous mourrez. Si vous avez de l'argent, vous êtes soigné.
Mmh, c'est là où on se rend compte que la France est un beau pays.
Quand je reviens d'Afrique, pendant 15 jours, je ne râle pas.
Mmh. Vous êtes aussi professeur de la Société d'addictologie francophone.
Oui.
En quoi consiste votre métier? Parce que vous avez vraiment plusieurs casquettes.
Oui, mais ça, c'était un métier. Un jour, j'avais d'anciens étudiants qui sont venus me chercher parce qu'on était à l'époque de la répression pure et dure des toxicomanies. C'est toujours le cas, mais pas autant qu'à l'époque.
Alors, quand vous dites à l'époque, c'était quand?
À l'époque, c'était à la fin des années 80, début des années 90. Il était interdit de vendre des seringues dans les pharmacies. Et les toxicomanes achetaient de vaccins pour la grippe, parce qu'il y avait dedans une petite seringue, ils jetaient le vaccin et ils s'en servaient pour se piquer à l'héroïne. Ce qui fait qu'ils avaient tous le sida. Et donc, nous avons mené un combat avec des amis pour réduire les risques. La réduction des risques était un objectif que l'on continue. Bon, on a obtenu un certain nombre de résultats, mais la toxicomanie reste toujours un énorme problème que les politiques ne comprennent pas du tout.
Et c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors sur la toxicomanie? Quel message vous pouvez faire passer à ceux qui nous écoutent en 2017 qui sont concernés de près ou de loin par ce problème,
tellement,
par ce fléau?
Tellement de fois. D'abord, il faut distinguer les différents toxiques. Poursuivre le cannabis, c'est absolument ridicule. On saisit des camions de cannabis. Alors vous croyez que vous allez punir les gens qui ont 5 grammes de cannabis dans la poche? Non, alors il faut certainement relâcher la pression sur le cannabis. Pour le reste, il n'y a pas de solution facile. Mais je vous signale que la prohibition aux États-Unis n'a fait qu'aggraver le rôle de la mafia. Donc je ne vous dis pas qu'il faut libéraliser la drogue tout de suite, immédiatement.
Vous êtes quand même pour la dépénalisation du cannabis?
Ah bah, évidemment. Mais comme la plupart des gens qui s'intéressent au problème,
oui.
Les hommes politiques sont complètement bloqués.
Et alors quand les hommes politiques de droite ou de gauche,
il n'y a pas une grande différence.
Oui, voilà, veulent dépénaliser le cannabis, l'usage du cannabis, mais infliger une contravention, ça peut marcher ça, franchement?
Écoutez, moi je veux bien parce que personne ne paiera la contravention et puis ça va tomber à la poubelle. Ce sera une espèce d'échelon de descente vers la dépénalisation. Mais non, vraiment, l'héroïne est une drogue dangereuse. Puis il y a toute une famille de drogues dont vous ne connaissez pas le nom, qui sortent tous les jours, qui sont des produits psychoactifs, qui sont actifs sur le psychisme et qui sont très, très dangereuses. Et puis il y a les analgésiques, le fentanyl. Fentanyl, Monsieur Prince, de quoi il est mort?
De ça, non?
Voilà. Il y a eu, la semaine dernière, 9 morts au Canada de gens qui ont pris du fentanyl.
Et on n'en parle pas assez. Heureusement, on peut en parler avec vous.
Si, on en parle, mais ça...
Oui, mais on ne fait pas de lien de cause à effet comme on peut le faire avec vous dans Service Compris sur Sud Radio. Alors, je vous propose qu'on continue à parler de vos différentes missions et des messages à faire passer pour l'année 2017, qui vient. Le professeur Boyan Christophorov sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant.
Sud Radio, Service Compris.
Véronique Jacquier.
Bienvenue sur Sud Radio dans Service Compris, l'émission qui se propose de vous trouver des solutions pour vous aider dans votre vie quotidienne. Le mercredi, vous avez l'habitude de retrouver le professeur de médecine Boyan Christophorov. Boyan Christophorov qui est avec vous sur Sud Radio pendant les fêtes pour vous expliquer comment il est devenu médecin, comment il est devenu gastro-entérologue, chef de service interniste à l'hôpital Cochin et en plus président de la Société d'addictologie francophone. Et c'est quand même assez rare pour être souligné, même si vous me dites, professeur, qu'il y a pas mal de médecins qui sont pour la dépénalisation du cannabis, mais j'en connais peu qui parlent de ce sujet aussi ouvertement que vous.
Parce qu'ils n'ont sans doute pas la pratique. Vous savez, les médecins n'ont pas de naissance une licence à parler de tout. Il y a ceux qui connaissent un sujet et puis ceux qui ne le connaissent pas.
Et il faut dire avec humilité, là, je n'en parle pas parce que je ne sais pas.
Voilà, ou alors j'ai une opinion, mais comme tout citoyen.
Voilà. Professeur, alors expliquez-nous les messages que vous voulez faire passer sur l'année 2017. On a fait une belle émission consacrée au manque de médecins, à la pénurie de médecins. On avait des beaux témoignages d'ailleurs d'aides-soignants qui nous disaient il n'y a pas qu'une pénurie de médecins, il y a aussi une pénurie de bons médecins. Le nerf de la guerre, c'est le numerus clausus. Rappelez-nous les chiffres qui tuent d'ailleurs, si j'ose dire. Passez-moi l'expression.
Les chiffres sont les suivants. Avant le numerus clausus, il y avait à peu près 10 000 étudiants qui entraient dans la filière médicale et ils finissaient presque tous, ils devenaient médecins. Alors à la suite des mesures que l'on a prises il y a une trentaine d'années, un peu plus, on est descendu pour réduire la dépense. On a voulu réduire le nombre des médecins. Comme si vous voulez réduire la consommation de pain, vous réduisez le nombre de boulangeries.
Mmh. Voilà. Donc ça donne ce que ça donne.
Voilà. Donc on est descendu à un moment donné à 3500 étudiants par an. C'était le plus bas, le nadir. Alors on s'est rendu compte qu'on
était
complètement
fou. Oui, mais ça c'était quoi, les années 70, il n'y avait
pas
eu le baby boom.
C'était les années 80. Vous savez, c'est l'ignorance de la démographie. C'est l'ignorance de la démographie. On a du mal à se dire que la mesure que l'on prend aujourd'hui fera effet dans 20 ans.
On ne pense plus sur le long terme.
Hein.
Souvent, d'ailleurs, les experts de Sud Radio Service compris le disent, les notaires, les avocats, on ne prévoit plus les choses, on ne construit plus les choses sur le long terme.
Ça a toujours été comme ça.
Non,
il faut pas, ne tombez pas dans ce travers.
Bon,
vous savez, il y a une chanson de Mouloudji qui dit, il n'y a plus de bonnes. Il n'y a plus rien. Il vous dit que tout est foutu. Voilà. Non, il ne faut pas tomber là-dedans. Alors, on est descendu à 3500, puis on s'est rendu compte qu'il fallait remonter. On est remonté. Actuellement, on est à 7500. Mais la pénurie va se poursuivre au moins jusqu'à 2025, si ce n'est pas davantage.
Au moins jusqu'à 2025. Et il faudrait combien d'étudiants, alors, chaque année?
Alors, il en faudrait beaucoup plus. C'est très difficile de vous calculer un chiffre. Je ne suis pas magicien. Mais il faut augmenter. Je vous rappelle que l'année dernière, le conseiller de l'ordre de médecins, celui qui donne le droit d'exercer, a enregistré autant de diplômes étrangers que de diplômes français. Et les diplômes étrangers ne sont pas des étrangers, ce sont des Français qui ont fait leurs études en Belgique et en Roumanie. En Roumanie, dans la ville de Cluj, il y a une université où les cours sont faits en français.
Pour les Français, donc.
Pour les Français. Ça leur coûte à peu près 5000 euros par an. Et puis voilà, alors tout est payant hein, maintenant, c'est... Et donc ces gens-là, pourquoi est-ce qu'on ne les forme pas chez nous et on les laisse se former là-bas? C'est absurde.
Vous voulez mettre un coup de projecteur aussi sur l'absurdité des prix, c'est-à-dire qu'il y a des usines, enfin c'est pas le mot, des écuries pour réussir les concours de médecine.
Oui. Le concours.
C'est-à-dire
la...
qu'on ne réussit plus maintenant si on n'a pas les parents ou si on n'a pas nous-mêmes payé une sacrée somme pour prendre des cours privés.
Absolument.
À côté.
Absolument. D'ailleurs, j'ai en ce moment-ci une de mes petites filles qui vit chez nous. Donc je le vis directement. La première année de médecine s'appelle le PACES, se termine par un concours. La plupart des candidats doivent le redoubler. Alors c'est intelligent de faire une sélection avec deux années d'études qui peuvent se terminer par un échec. Donc pour être sûr de passer, il faut avoir de bonnes chances de passer. D'abord il faut avoir le bac S et il faut faire ce qu'on appelle une préparation. Préparation, c'est une boîte privée qui prend les gens, qui les prend au mois d'août, dès un mois avant la rentrée, et qui les coach pendant toute la durée des études. Donc ils font double étude, la faculté, et ensuite ils vont à la prépa, et à la prépa, on les fait travailler, fait des exercices.
Ils cravachent comme des fous.
La prépa, ça coûte 6 000 euros par an. Vous voyez que la République française, démocratique et égalitaire, peut laisser ça?
Non, c'est pas normal, ouais, c'est vrai.
C'est pas normal du tout.
6 000 euros par an. Et alors, bon, question un petit peu taboue, mais ces jeunes qui cravachent là, hein, et qui ont double ration de super cours à ingurgiter tout au long de la journée, est-ce que fondamentalement, ils sont meilleurs ou plus brillants que ceux de votre génération? Parce que c'est beaucoup plus dur, il y a beaucoup plus de monde, et le concours est peut-être plus difficile, je ne sais pas.
Ils sont beaucoup plus brillants que nous. Parce que chez nous, il y avait un certain nombre de fumistes qui arrivaient à traverser les études, après avec un peu de bagou, et puis ils apprenaient leur métier sur le terrain. Actuellement, on a des étudiants qui, au niveau scientifique, sont au top.
Sont brillantissimes.
Bien entendu, ce qui se gagne en capacité intellectuelle se perd aussi en qualité humaine.
Oui, il faut de l'empathie, il faut de l'écoute, il faut de l'observation.
Ils sont beaucoup plus technocratiques, etc. Mais enfin, c'est à l'université de les former plus tard. Le système médical français est très bon une fois passé la première année. L'étudiant en médecine français, il va à l'hôpital dès la troisième année, c'est-à-dire la deuxième année, une fois passé le concours du début. Et il va tous les matins. Quand j'étais chef de service, j'avais en permanence des étudiants allemands qui venaient au titre d'Erasmus parce qu'ils savaient qu'en France, un étudiant allait à l'hôpital tous les matins, parler aux malades, leur palper le ventre, l'écouter le cœur, etc., etc. Dans les autres pays, en Angleterre, en Allemagne, dans la Scandinavie, vous ne voyez pas un malade avant la fin de vos études de médecine. On vous les montre comme ça. Mais pour avoir un contact direct, il faut avoir fini. Alors qu'en France, c'est très tôt. Et la formation pratique est bonne.
Professeur Boyan Christophorov, quel message vous faites passer aux parents qui nous écoutent et qui ont un enfant qui veut faire médecine? Qu'est-ce que vous leur suggérez? Parce que finalement, cette prépa privée, elle est incontournable maintenant.
Elle est devenue incontournable. Oui. Pendant très longtemps, j'ai lutté contre cette idée. Ça me paraissait scandaleux. Parce que tous les ans, je vais à mon vieux lycée Louis-le-Grand. Je vais faire l'article pour ma faculté de médecine. Et je leur dis, voilà, mais c'est depuis 2 ans, je leur dis non, vous ne pouvez pas contourner la prépa.
Oui.
Donc il faut travailler. En revanche, quelqu'un qui est un bon élève, qui a le bac S, qui a bien suivi sa prépa, en 1 an ou en 2 ans, il rentrera en médecine.
Il rentrera en médecine.
Absolument.
Bon, il y a quand même un gage de garantie. Est-ce que ça ne vous alerte pas le fait que les 3/4 des étudiants en médecine soient des femmes désormais?
Non, pourquoi voulez-vous? C'est bien comme ça, c'est la société qui est comme ça.
Mais qu'est-ce qui explique qu'il y ait plus de femmes dans
les
études de médecine?
Mais parce que les femmes sont plus sérieuses.
Elles sont plus brillantes, mais je suis contente de vous l'entendre dire.
On leur dit qu'il faut étudier, elles étudient. Les garçons, vous savez, ils sont comme ça, les filles, tout ça. Bon, donc elles réussissent mieux partout, les filles réussissent les études.
Mm-hmm.
Alors après, le problème, c'est que beaucoup d'entre elles ne vont pas utiliser de la même manière leur diplôme de docteur en médecine.
Les conséquences donc de la féminisation, c'est qu'elles ne vont pas jusqu'au bout?
Non, elles vont jusqu'au bout. Mais ça ne fait pas autant de médecins actifs sur le terrain.
Oui, et ce sont toujours des hommes qui restent chefs de service, j'imagine, non?
Ah non, il y a de plus en plus de femmes. Ah non, pour le métier de chef, pour le métier de chirurgien, il y a des femmes. Mais ce sont des femmes particulières.
C'est-à-dire?
Ce sont des femmes d'autorité, ce sont des femmes, ce sont des chefs de service, ce sont des meneurs.
Voilà.
C'est normal.
Ce sont des femmes qui ont quelque chose d'un homme, finalement, non? Avec toutes les qualités féminines. Quand je dis ça, c'est pas méchant,
vous
au contraire.
Êtes macho.
Non,
ce sont des qualités qui sont tout à fait partagées par les... Vous savez, on voit tout, on voit même le droit de cuissage des femmes envers des hommes. Hein.
Ah, alors ça, professeur, je vous propose qu'on y consacre une prochaine émission sur Sud Radio, dans Service Compris.
Sûrement.
Je vois que vous avez pas mal de choses à nous raconter sur le sujet. Ça met en appétit nos auditeurs. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes. Professeur également, bon réveillon à la fin de la semaine. Et on se retrouve début janvier sur Sud Radio.
Merci.
Pour un beau service compris. Dans une poignée de secondes, c'est Serge Maître. Il va nous parler du droit de cuissage à l'AFUB, l'Association française des usagers des banques. C'est le secrétaire général et il est là aussi tous les mercredis pour vous dispenser ses bons conseils. À tout de suite.
Sud Radio, service compris.
Véronique Jacquier.
Vous nous rejoignez peut-être sur Sud Radio dans Service Compris, un service compris spécial pendant les fêtes. Je vous propose de mieux connaître ceux qui vous font vivre l'émission toute l'année et surtout ceux qui vous conseillent, qui vous guident, qui vous épaulent, puisque Service Compris, c'est l'émission qui se propose de vous trouver des solutions pour vous aider dans votre vie quotidienne. Il y a un petit instant, on était avec le professeur de médecine Boyan Christophorov, qui était passionnant, son parcours, les conseils qu'il donne aux parents qui ont des enfants qui veulent faire médecine, bref, le monde d'aujourd'hui à l'hôpital. Et j'accueille Serge Maître. Bonjour Serge Maître.
Bonjour Véronique Jacquier.
Je vais pas vous appeler docteur, quoique, hein, quand je vois l'empathie que vous avez pour les auditeurs de Sud Radio, et ce que je dis, c'est pas malicieux, hein, c'est sincère et c'est vrai, vous le savez Serge. Vous n'êtes pas docteur, mais vous êtes quand même au chevet des auditeurs. Au nom de la FUB, en tant que secrétaire général de la FUB, l'Association française des usagers des banques, on vous retrouve le mercredi entre 12h40 et 13h20. Ça passe toujours très vite avec vous puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'appels sur des sujets divers, mais toujours les auditeurs de Sud Radio qui sont confrontés à des difficultés qu'ils rencontrent avec leurs banquiers. Hein. Alors évidemment, la hausse des frais de tenue de compte, les fraudes à la carte bancaire, l'endettement, le surendettement, et puis le banquier qui nous parle un jargon qu'on ne comprend plus ou qu'on ne comprend pas parce qu'il a pas envie qu'on comprenne. Alors Serge Maître, comment en êtes-vous à devenir le chevalier blanc, à prendre la défense des Français et des auditeurs de Sud Radio contre les banquiers? Comment ça s'est fait, ça, cette histoire de la FUB?
C'est à la fois simple et c'est une très belle aventure, en tout cas pour mes camarades et moi-même, parce que je ne suis que l'un
oui,
des membres.
Oui, mais pas tout seul.
Heureusement. Et tous les fondateurs sont quasiment tous là encore. Bah, disons, il y avait deux personnes qui faisaient des cours et on était détachés de l'université pour faire des cours de formation professionnelle, notamment au ministère de l'économie et des finances. Et quand on a fait un
Mais vous avez une formation de juriste ?
Je suis juriste, disons, on dit de haut niveau. Je suis un spécialiste des fusions-absorptions, donc un sujet très particulier à l'époque. Donc concrètement, on faisait un cours et un jour on a fait un cours de droit bancaire. Et en faisant ce cours de droit bancaire de 5 jours, hein, c'était long, en formation professionnelle, les personnes sont venues nous voir à la fin en nous disant « c'est pas vrai ce que vous dites, c'est pas ce que je vis ». Alors nous, argument d'autorité, la loi, le code, etc. Et attendez, si, c'est quand même 5 jours qu'on a passé pour vous entendre dire ça. C'est vrai. Et ces personnes ont dit, il faut faire quelque chose.
Et vous vous dites, il y a une distorsion entre le discours que je tiens et la réalité de ce que les gens
vivent.
Il
y avait une fracture entre la pratique bancaire, le banquier considérant que sa pratique est la loi, et le droit de la République qui était très différent, en tout cas assez différent. Et d'ailleurs, on a eu sur nos fonds baptismaux un professeur comme M. Gruat qui est décédé il y a quelques années, dont le livre s'appelle « Le contrat bancaire », réintégrer le droit bancaire de la relation contractuelle. Donc nous, on est dit bah, « il faut rééquilibrer ça ». Le droit est là, on peut faire des choses, et à partir de là, l'aventure a commencé, mais il y a longtemps, il y a 30 ans.
Il y a 30 ans, la création de l'AFUB, l'Association française des usagers des banques, vous entendez bien, vous qui êtes à l'écoute de Sud Radio, ça date d'il y a déjà 30 ans.
Ça fait pas tout jeune, hein, pour nous qui sommes les animateurs, je compte sur tous mes animateurs, il n'y en a qu'un qui n'est plus là parce qu'il est décédé, mais les autres sont tous là, et il y a eu d'autres équipes. Alors le pari, c'était de connaître ce qu'il fallait dire aux personnes, et effectivement avoir cette pédagogie active de terrain.
Le
premier constat, c'est qu'on n'avait pas les moyens. Mm-hmm. Hein, on a mis, pour parler de l'anecdote, un répondeur le premier jour qu'on a existé, il fallait les louer, c'était cher. On met un répondeur sur une ligne de téléphone. Le soir, la galette était pleine, la galette d'enregistrement. Lendemain, à midi, on y est repassé, elle était déjà pleine. Et on a découvert qu'il y avait une demande qui était bien supérieure à ce qu'on supposait, et du public, alors qu'il n'y avait aucune action, aucune, on va dire, publicité. Il y avait qu'une ligne dans l'annuaire de téléphone. Et c'était déjà plein. Et le deuxième point, c'est que les questions, on n'avait pas les moyens de répondre. On peut vous faire du grand droit, des grandes règles, etc.
Il n'y avait pas Internet en plus à l'époque.
Non, effectivement, c'était, on va dire, on n'était pas à l'âge de pierre, mais ça ressemblait un peu à ça, de la communication.
Et honnêtement, moi j'imagine bien ces premières années, c'était quoi? C'était du camping chez vous, là, quand vous nous parlez du répondeur qui était plein? Ça se faisait où? La création de la FUB, c'était où concrètement?
C'était dans Paris, 3e, et on avait bénéficié d'une chose, on a aidé une société du Sentier. L'homme part en vacances, il avait un découvert, c'était une grosse société, d'environ 10 millions de l'époque, énorme. Et parce qu'il avait payé un abonnement avec un découvert de 35 euros, de quelque chose comme ça, en francs, 35 francs, eh bien il s'est retrouvé interdit bancaire, il n'obtenait pas, alors que c'était une grosse entreprise de plusieurs centaines de salariés, la reconnaissance d'une erreur par la banque, puisqu'il n'avait pas dépassé son découvert qui était énorme, qu'il pouvait user, mais il avait tout laissé les comptes à zéro. Donc on est intervenu, et en reconnaissant, je vais dire, il nous a prêté un local.
Mais c'est une très belle histoire.
25 mètres carrés dans, au centre de Paris.
Et donc c'est ainsi que l'aventure a vraiment commencé.
Oui, véritablement, avec une structure, avec aussi ceux qui nous écouteraient qui ont été bénévoles, parce qu'un bénévole dure assez longtemps chez nous, environ en moyenne 7 ans, si je puis m'exprimer comme ça.
On salue d'ailleurs les bénévoles qui sont à l'écoute de Sud Radio et de Services Compris. Combien de bénévoles à la FUB, Serge Maître?
Là, on peut en compter, il y a un corps d'environ 60 bénévoles, mais il y a des délégations en province, donc il faudrait voir avec le microscope, mais une soixantaine, et ce sont des juristes, essentiellement des juristes plus une technostructure. Mais pourquoi? Parce que nous, à la loi de la jungle, c'est un mot ampoulé, rigolez pas trop, mais à la loi de la jungle, on oppose le droit de la République. Et ça, ça dit tout de suite tout, parce que la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort, c'est celui qui considère que vous n'avez pas les moyens de résister à son chantage, à ses menaces. Et la loi de la République, elle vous donne les manières, le droit de la République, le credo, le critère pour dire c'est bien, c'est pas bien. Et là, je vais vous dire, les députés et les sénateurs font quand même beaucoup de travail. Et il y a beaucoup de lois. D'ailleurs, les banquiers s'en plaignent, s'ils se trouvent un peu prisonniers de toutes ces règles, mais on leur a appris petit à petit à les respecter.
Oui, mais finalement, il y a eu une éducation, c'est-à-dire qu'avec le travail de la FUB, petit à petit, il y a eu une conscience chez les parlementaires et les autres, hein, d'ailleurs. Hein. Et oui. Finalement, il n'y a que les banquiers qui restent hermétiques à votre discours et à votre combat.
On pourrait le dire comme ça, mais ça serait faux. En 30 ans, je peux vous dire qu'à l'origine, quand on a mis les pieds dans le plat, il y avait des dérapages absolus. Vous aviez toujours... Vous liez des anecdotes, et eh bien voilà.
Allez, anecdotes, Serge Maître.
Il y a un monsieur qui était manager depuis longtemps chez McDo, hein, dans une enseigne. Et puis un jour, son salaire est rejeté parce qu'on dit erreur de RIB. Le RIB a changé. Votre employeur a dû se tromper. Il n'y avait aucune erreur. Ça faisait 5 ans qu'il touchait son salaire sur le même compte, etc. Conséquence, rejet de chèque. Une kyrielle de chèque qu'il avait fait, ignorant que le salaire n'était pas là alors qu'il tombait toujours. Ben voilà. Ou encore, vous étiez interdit bancaire sans avoir reçu la lettre recommandée avec accusé de réception que prescrit la loi. Ça n'existe plus. Le problème, il s'est aggravé. Vous me direz, ah bon, ça n'existe plus, donc ça devrait aller mieux. Ben non, pas du tout. Contrairement à ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, le correspondant de la FUB a disparu. Il est intégré au CNRS allemand, le Max Planck. Eh bien, pourquoi? Parce que maintenant, on est confronté à des déviances de masse. Avant, c'était des dérapages parce que les employés étaient mal formés ou mal contrôlés.
C'était des dérapages qui touchaient l'individu.
Oui, donc, ponctuellement.
Il y avait quelque chose de kafkaïen. Des dératés dans la machine. Maintenant, au contraire, c'est plus diffus et ça touche beaucoup plus de monde, c'est ça?
Et oui, c'est de la déviance que nous, on appelle la déviance de masse. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on retrouve les mêmes problèmes de résistance à la loi. Alors, je vais vous dire les dates de valeur, hein, mais même si on fait condamner devant la Cour de cassation, les banquiers ne changent pas. Alors qu'en Allemagne, en 1977, on a eu la même cas de figure sociale. Immédiatement, les banquiers ont changé leur régime de gestion des comptes. Ici, ce n'est pas le cas. Bon, ben, ils sont condamnés et puis ben, ils passent le chemin. Le deuxième, par exemple, c'est sur les frais et commissions dont vous parliez tout à l'heure. Ça concerne tous les établissements, n'en doutons pas. On en a parlé, les 13% en moyenne d'augmentation.
Bien sûr, violation de la loi,
ce n'est pas qu'ils augmentent les tarifs, c'est qu'ils méconnaissent, ils méprisent les règles qui devraient rééquilibrer le rapport un peu, un tant soit peu, même si c'est faible. Et puis, on a les fraudes, par exemple, aux moyens de paiement. Là, voilà des hypothèses où il y a des lois. Je disais, Leicester a fait son travail souvent avec la Commission européenne dans les reins.
D'ailleurs, vous avez souvent des rendez-vous à Bercy, hein?
Nous sommes pas seulement à Bercy, hein. Nous avons été auditionnés il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 semaines, par la Cour des comptes sur les politiques publiques face à l'exclusion bancaire. On pense toujours aux pauvres, l'ultra pauvres exclus bancaires, mais il y a des gens qui sont exclus bancaires en étant des moyens pauvres, je dirais, comme pour les Chinois, ou en étant des travailleurs pauvres. Donc on n'est pas né. Et puis même quand vous avez un peu très âgé, vous avez 150 000 euros sur votre compte. Vous direz, ah bah là, ils ne les ont pas donnés aux petits-enfants déjà. Non, ils ont 150 000, et ben on a des cas où des gens ont été virés de leur banque parce qu'ils ne sont pas consommateurs de services bancaires.
Ah oui, vous nous aviez raconté cette anecdote.
Voilà,
hein,
il y a des choses assez affreuses.
Sur Sud Radio.
Et là, récemment, on a été auditionné, c'est il y a une dizaine de jours, sur la maltraitance bancaire à l'égard des personnes âgées. Le mot n'est pas de moi, parce que ça paraît un mot lourd, un mot fort. C'est celui du secrétariat d'État aux personnes âgées. La maltraitance, ça existe.
Alors, qu'on entend par maltraitance bancaire, justement, Serge Maître?
Vous mettez des personnes un peu âgées, vous tournez le tambour de l'essoreuse, c'est à peu près ça. Ça veut dire, on va les exclure de souscrire un crédit à partir de 58 ans. Je vais vous dire, aujourd'hui, la durée de vie moyenne est de 78 ans. Oui. Donc, on est loin de 58 ans, on ne se sent pas vieux. Hein. Ah oui, mais attendez, si je vous prête sur 20 ans, vous aurez quel âge à la fin? Non, je ne peux pas. Ou encore, on va vous dire, ah oui, mais je ne peux plus vous assurer à partir de 60 ans, 65 ans, ça dépend des contrats. C'est des mécanismes d'exclusion. Et puis, il y a la maltraitance. Vous êtes dans une maison médicalisée, vous avez des enfants, tout va bien. Sauf que le banquier, là, il dit « Ah, mais la procuration que ma mamie ou papy a signée il y a 4 ans, 2 ans, il faut qu'ils viennent la renouveler. »
Il faut qu'ils viennent physiquement dans l'établissement pour signer.
Voilà, signer. Oh. Ben voilà une exigence superfétatoire qui paraît totalement abusive au vu. Et à une époque, c'est vrai, rêvons les banques d'il y a 20 ans, si on veut rêver, c'était pas un rêve. L'employé de banque venait auprès de l'agence, il allait à la maison médicalisée. Il y en avait moins, il y avait moins de cas parce que la durée de vie était moindre aussi, il y a 25 ans. Mais il se déplaçait. Aujourd'hui, c'est une course d'obstacles. Voilà de la maltraitance. On complique la vie parce que vous avez un certain âge. Il y a des solutions pourtant. Il y a des solutions et c'est ce qu'on a expliqué au secrétariat d'État, des solutions, puisque les étudiants peuvent avoir la caution de la BPI, la Banque publique d'investissement. Oui. Pourquoi quelqu'un, puisque le banquier est frileux, pourquoi quelqu'un qui, en raison de son âge, est exclu alors qu'il a une solvabilité? L'étudiant, lui, n'a pas de solvabilité. Lui, il a une solvabilité, mais on lui dit « Ah oui, mais il n'est pas tout jeune. Hein. » Bon, il devient un peu rassis à 60 ans. Hein. Bon, bonjour. Hein. Ceux qui nous écoutent doivent se dire « Oui, c'est vraiment exagéré. Je ne le sens pas. » Eh bien, concrètement, là, que la BPI donne une caution. Il faut sécuriser le banquier. Hein, il n'y a pas que le méchant banquier. Il y a aussi l'État qui doit faire son travail là. Et trop souvent, on constate qu'il laisse les gens abandonner.
Alors, cela dit, il y a quelque chose de positif quand on vous écoute, Serge Maître, c'est que vous bataillez ferme, mais on voit qu'il y a des petites avancées. Hein, on va en parler, on va voir avancées que vous notez pour l'année 2016 et puis ce que vous espérez pour l'année 2017. Vous écoutez Serge Maître, le secrétaire général de l'AFUB, l'Association française des usagers des banques, sur Sud Radio. Vous avez l'habitude de le retrouver le mercredi entre 12h40 et 13h20. Intarissable, Serge Maître est toujours de bons conseils pour les auditeurs. Hein, vous retenez le numéro. Si vous découvrez l'émission, il faudra faire le 0826-300-300 pour être avec nous dès le 2 janvier. A tout de suite, on continue avec Serge Maître. Il va nous raconter, il va vous dispenser ses bons conseils pour les mois qui viennent.
Sud Radio, service compris.
Véronique Jacquier.
J'espère que vous passez de bonnes fêtes à l'écoute de Service Compris et de Sud Radio et de tous nos programmes, bien entendu tout au long de cette semaine. À mes côtés, après avoir accueilli le professeur de médecine Boyan Christophorov qui vous conseille le mercredi entre 13h20 et 14h, j'ai Serge Maître, le secrétaire général de l'AFUB, l'Association française des usagers des banques. Alors, pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, Serge, évidemment, vous nous avez raconté d'une façon passionnante comment vous êtes devenu le secrétaire général de cette association. Combien d'adhérents à la FUB?
Au compteur, on dépasse un peu 50 000 adhérents.
50 000, d'accord.
Et les cotisations, le montant nominal n'a pas changé depuis 2001.
C'est-à-dire,
donc,
c'est combien?
C'est 10 euros.
10 euros?
Attendez, 10 euros,
mais vous
35
arrivez
euros,
à vivre,
euros.
Du coup, vous arrivez à déployer la voilure?
Il n'y a que des bénévoles, et c'est une raison toute simple, c'est pas seulement par vocation, c'est aussi parce qu'on n'a pas les moyens de payer quiconque, y compris ma personne.
Voilà, mais donc c'est un travail de bénédictin, quelque part,
oui,
hein,
mais
pour
quelque
défendre
part,
les auditeurs.
C'est satisfaisant, vous voyez, parce que c'est très satisfaisant, parce que certes, il y a la partie émerger qu'on voit, ah, ils diffusent des informations, il y a des délégués dans les régions, des groupes de 2 à 3 personnes qui tiennent des permanences toutes les semaines ou tous les 15 jours. Bon, ça c'est la partie qu'on voit. Mais il y a la partie lobbying, c'est-à-dire groupe de pression. Pensez que la première loi qu'on a fait voter, c'était en 90. En 1990, si je me souviens bien, c'était quoi? Ben, c'était de dire que le banquier ne pouvait pas refuser un chéquier et qu'il devait justifier à la demande de son client du motif pour lequel il refuse un chéquier. Ça a été notre premier petit combat. Après, nous avons mis 10 ans à faire admettre une loi de prévention. Pourquoi? Ben, c'est quoi? Vous avez, à l'époque, les banquiers rejetaient des chèques et ils se goinfraient de frais. Donc, on a fait voter une loi selon laquelle il doit d'abord, avant de rejeter un chèque, prévenir son client comme quoi il y a un chèque qui arrive, qu'il n'y a pas d'argent sur le compte. Et on n'a pas été trop précis dans la loi, mais il est admis qu'il y a un délai. Les établissements mutualisent 2 jours, les Crédit Lyonnais, par exemple, jusqu'à 6-7 jours, pour ramener de l'argent. Ça évite, c'est une loi de prévention qui évite les conflits. C'était déjà appliqué en pratique en Allemagne. Chez nous, c'était pas. Vous voyez, donc il y a des. On peut faire avancer les choses. Et là, bien sûr qu'on ne tape pas sur le bout du nombril. C'est des choses qui passent. On ne va pas faire toute une publicité.
La force du nombre, évidemment. Alors,
l'union,
moi,
c'est
je
la
me
force.
Mets à la place des auditeurs de Sud Radio. Vous leur dites toutes les semaines, vous allez sur le site de la FUB, vous cliquez pour avoir le modèle de telle lettre et vous l'envoyez à votre banquier, combien de personnes en moyenne cliquent sur les lettres dont on a le plus besoin, hein, pour qu'on ait une idée quand même, parce que c'est phénoménal le nombre de gens qui vont sur votre site et sur votre page Facebook.
Ça, oui, ça peut aller de 70 000 à 120 000 par mois, ça dépend des mois, ça dépend des moments, mais pas nécessairement des actions qu'on mène, hein, ça dépend des ressentis. Et il y a au moins 35 000 personnes qui par mois vont faire une copie de lettre, d'une de ces lettres pour les fraudes aux cartes bancaires, qui est un gros sujet, c'est le deuxième sujet de préoccupation, de plainte, ou encore pour les frais et commissions, parce qu'on n'est pas Madame de Sévigné ni Monsieur Zola, j'aime là le dire, et qu'on n'est pas juriste non plus, donc comment se parler à son banquier? Et très souvent, vous le savez, Véronique, on leur dit, préciser que c'est sur recommandation de la FUB, après être intervenu sur Sud Radio. C'est le petit coup de pouce qu'on donne à nos auditeurs. Hein,
oui,
aussi.
Tout à fait.
Donc
tout
là,
à fait.
Il y a, et puis il y a des décisions de justice, il y en a 800 environ, et je peux vous dire qu'il y en a à peu près plus de la moitié des personnes qui vont sur notre site, les nombres sont énormes, plusieurs dizaines de milliers, et là on en compte environ 45 000 par mois qui vont faire des copies de décisions de justice qui leur permet de s'armer. Le but de la FUB, c'est de donner aux citoyens, j'allais dire, à l'usager, aux clients de la banque, les moyens de connaître ses droits s'il en a, parce qu'il ne faut pas rêver, parfois on réclame mais on n'a pas de droit, et quand on en a, de les faire valoir. Ce n'est pas de l'assistanat. Ce que aucun de des bénévoles ne fait, c'est de ne pas, il ne vous accompagne pas au tribunal. Il ne vous rédige pas à votre place. Vous allez avoir les moyens, validés par des juristes derrière, de savoir si votre démarche est bonne et comment la faire. Ils vous aideront.
Mais et surtout, il n'y a pas apprendre à se défendre avec les bons outils, c'est ça.
Le faire soi-même, c'est comme ça que c'est important. C'est l'autogestion. C'est le seul moyen d'être convaincu soi-même, déjà, qu'on a des droits. Vous savez, quand on s'est créé, les personnes rappelaient 2-3 fois pour savoir, selon les consultants, si c'était bien vrai ce qu'on leur disait. Aujourd'hui, ils n'en doutent pas. Je dirais même que parfois, ils démarrent un peu vite.
Oui, maintenant, on est dans un monde où on pense qu'on a plus de droits que de devoirs. Donc, ceci explique peut-être aussi cela. À l'époque, on n'osait pas. Quand vous avez commencé, il n'y avait pas cette culture.
Le problème aujourd'hui n'est plus le même. C'est que les employés de banque sont quand même corps totalement avec les intérêts de leurs employeurs, au mépris de la loi, alors qu'ils sont éclairés. Et ça, c'est sans doute le ressenti. Mais des gens qui se trouvent déjà dans une société avec une chape très forte. Et là, il y a une prégnance, on dirait, des banques sur les gens. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Nous, on ne soulève pas les problèmes, c'est les usagers qui les soulèvent. Parfois, il y a des employés qui disent « oui, vous les poussez à être aigris ». Moi, pas du tout, nous, attendez, on n'a pas le temps de les pousser.
Oui, vous passeriez bien d'avoir du travail supplémentaire,
oui,
Serge Maître. Serge, alors, comment ça s'est passé en 2016 pour les usagers des banques? C'était une bonne année?
Alors, pour les emprunteurs, c'est quand même un bon cru, je dirais. Hein, c'est du bon cru. Pourquoi? Les taux d'intérêt se sont, presque très bas, se sont effondrés. On confirmait une baisse. Alors, chaque fois que ça baisse, on se dit ça va reprendre, ça va augmenter. Ça va peut-être pas durer, on verra. Et il y a eu la deuxième bonne nouvelle, c'est pour ceux qui avaient leur assurance emprunteur, c'est toujours les emprunteurs, parce qu'il y a vraiment il y a un organe dont je fais partie, le CCSF, qui a fait beaucoup pour convaincre les banques d'être plus transparentes sur les critères d'équivalence des conditions. Rappelons, c'est je veux changer d'assureur ou je vous propose au moment de signer, avant de signer, je propose à mon banquier mon assureur, le contrat. Et jusqu'à présent, les banquiers, ils tournaient autour, etc. Et on a fait un gros travail là-dessus. Ça s'est assaini. C'est en voie encore d'assainissement. Et je peux dire, il y a un établissement qui admet tout à fait, assez correctement. Bien sûr, il peut y avoir des... Mais c'est la BNP, j'aime bien citer les moins pires. On va pas s'en priver. Je crois, chaque mois, admet un peu plus de 1500 personnes qui vont chercher l'assurance ailleurs que auprès de l'assureur de la banque. C'est bien. Et je pense qu'à terme, les assureurs des banques seront moins gourmands et qu'on aura une régulation.
C'est-à-dire qu'en fait, malgré la loi Hamon, il n'y avait pas tant de velléité que ça que de prendre une assurance à l'extérieur de la banque.
C'est surtout que lorsque l'on propose à sa banque, quand au moment de souscrire le crédit, je voudrais aller chercher, on va vous dire, vous savez, je ne pourrais pas faire comprendre ça à mes chefs, à ma hiérarchie, alors il faut prendre l'assurance maison. Et quand vous l'avez prise, l'assurance maison, vous avez du mal à proposer une autre assurance, parce qu'avant, jusqu'à récemment, on peut dire jusqu'à 2016, le banquier disait, ouais, mais ce n'est pas les mêmes conditions, regardez, moi je vous garantis 15 jours de plus, sur une durée quelconque. Je vous garantis un peu plus là-dessus. Donc, votre assurance, ce n'est pas des conditions équivalentes. Donc, on est arrivé à des petites discussions infâmes. Maintenant, ça devrait être assaini. Maintenant, c'est à nous, association de consommateurs. C'est aussi aux usagers qui ont une notice maintenant quand ils souscrivent, une notice sur l'assurance qui leur est donnée avant, quand ils discutent. Donc là, on a fait beaucoup de travail. On peut dire que c'est la bonne nouvelle de l'année 2016.
Alors, mauvais point quand même sur l'assurance emprunteur, parce qu'on est dessus, c'est le fameux retoquage par le Conseil constitutionnel. Ah. Hein, la loi Sapin 2 permettait, il y avait un article de loi qui permettait qu'on puisse changer d'assurance emprunteur tous les ans. On en a parlé sur Sud Radio dans Service Compris. On s'est réjoui pour tous les consommateurs, auditeurs qui sont à l'écoute. Et puis patatras, qu'est-ce qui s'est passé, Serge ?
Ben, y a une centaine de députés et sénateurs qui ont trouvé intéressant de dire « Ah oui, mais attendez, ça a été voté, mais ça n'a pas bien été discuté. » En fait, ça s'appelle un cavalier législatif. Ça veut dire que ça a été voté dans le cadre d'une loi qui n'était pas véritablement, qui n'avait pas pour objet ce problème d'assurance emprunteur. Donc, le Conseil constitutionnel a dit « Bah oui, c'est vrai, c'était pas faux. » Mais quand même, c'est 100. On aimerait bien, on va diffuser les noms sur le site, les 100. Eh bien, on aimerait bien que maintenant, ils proposent quelque chose. Hein, une loi, une proposition de loi, qu'ils voteraient tous, ça serait.
Donc, une loi c'est vrai. Dédiée à la consommation, par exemple, pour que ça puisse trouver sa place.
Même à ce sujet, une proposition précise. Et puis, il y a d'autres points quand même qui sont positifs. La Cour de cassation a confirmé les droits des consommateurs qui dénoncent une erreur du TEG, taux effectif global de leur crédit. Là, c'est important parce que la sanction est lourde pour l'établissement. Rappelons que c'est la réduction, pour parler simple, un peu, de la réduction au taux d'intérêt légal qui voisine les 1% quand vous êtes à 3,5 ou à 4%. Et puis aussi, il y a plus encore la Cour de cassation, toujours elle, qui a décidé qu'avant qu'un prêteur vienne à vous dire « Hey, vous n'avez pas payé, moi je vous fais tomber », ou etc. Eh bien maintenant, la Cour de cassation a dit « Il doit vous mettre, ce prêteur doit vous mettre en demeure de payer, déjà d'une, et de vous donner un délai suffisant pour vous acquitter du retard. » Alors quand on a 100 000 euros d'un coup, qu'on vous réclame d'un coup, alors que, bon, c'est la déchéance du terme, c'est tout à fait abusif, c'est ce que dit la Cour de cassation, c'est en faveur des usagers.
Et pour 2017, alors, qu'est-ce que vous prévoyez, Serge Maître ?
Ah, un bras de fer.
Enfin, vous n'êtes pas Monsieur Irma, je présente mal les choses, mais quelles sont plutôt vos espérances et les messages que vous voulez faire passer pour les auditeurs de Sud Radio ?
Les espérances, c'est que les taux d'intérêt ne remontent pas, et ça serait déjà bien pour les emprunteurs, mais ça serait bien pour l'État, parce que les taux d'intérêt...
Mais de toute façon, soyons clairs, Serge Maître, même si les taux d'intérêt remontent un tout petit peu et qu'on arrive à du 2, c'est toujours mieux que ce qu'il y avait il y a 3-4 ans quand on était à 3,50.
Ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans.
Bien
non,
sûr,
mais si
bien
on arrive
sûr.
À ce tarif-là.
Voilà, donc ça reste extrêmement intéressant
mais
de toujours emprunter, non ?
Si les taux d'intérêt. Il y a deux raisons. Oui. Micro, c'est-à-dire consommateur, il ne faut pas que ça remonte trop. Parce que ses salaires, rappelons-le, n'augmentent pas. Eux, ils sont de 1%.
Oui,
en
c'est
moyenne,
vrai.
Le PIB, le gâteau France, la production intérieure brute, 1% de plus. Alors si on est à 2%, ça veut dire que les banquiers vont pomper sur notre richesse, comme un peu, si vous voulez, le gui sur la branche du chêne. Ça profite dans ce cas-là. Donc c'est la crainte. Et puis il y aura un bras de fer. Le bras de fer, ça va être sur les frais. Il est évident qu'il y a des actions groupées parce que les banquiers font trop de bras d'honneur quand on vient à leur refuser les frais. On ne va pas se leurrer, faire dire non à une
banque. Les frais, attention, soyons très précis, de quels frais parlons-nous ?
De toutes les augmentations actuelles de frais.
Donc
que ce
qu'on a l'habitude de pourfendre sur Sud Radio dans Service Compris.
Tout à fait.
Les frais de tenue de compte, les abus bancaires, les cartes bancaires.
On a les frais de retrait déplacé, comme disent les banquiers, c'est beau. C'est quand vous allez chercher de l'argent dans d'autres distributeurs que ceux de votre banque. Bon, on peut y pourvoir, mais disons que là, on sait qu'il y aura un vrai bras de fer. Et donc, il va falloir.
Alors,
vous avez
dit il y a des actions groupées, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on va grouper des centaines de personnes pour qu'on puisse mettre en cause les banques, les grandes banques qui sont concernées. Et puis, les juges seront amenés à nous dire si l'interprétation est fausse ou si elle est exacte. Je postule qu'elle est exacte, sinon, on ne dirait pas aux personnes.
Oui, mais vous pouvez mener le combat en vous basant sur quel levier ?
Ah ben, on va rassembler dans une action devant des tribunaux. C'est des actions, des tribunaux qui ne coûtent pas cher. Donc ça, c'est pas la pire des nouvelles. Mais il va falloir aussi, et ça, c'est peut-être, si vous me disiez quels sont vos vœux, c'était un peu ça. Les vœux, c'est que les usagers soient beaucoup plus cohérents qu'ils ne le sont. Il faut déjà, en tout sujet, qu'ils se tournent vers les associations, pas juste pour dénoncer, pas juste pour redire, mais qu'ils leur proposent leur bénévolat, leur volontariat, leur action, qu'ils leur proposent aussi, éventuellement, quand ils ne peuvent pas donner leur temps de travail, comme on le fait chez nous, gratuitement, eh bien qu'ils le viennent avec leur contribution. Car quelles que soient les associations, elles sont toutes bien trop pauvres par rapport aux objectifs qu'elles poursuivent. Et ça, je me tournerai vers les usagers, vers les consommateurs, quelle que soit l'association. La FUB, tout à fait évident, il y a des chiffres. Eh bien là, nous sommes tous dans moins de moyens que de besoins. Et ça, c'est qui paye les pots cassés ? C'est le consommateur. Donc, consommateur, l'union fait la force, il faut vous le rappeler, et il faut vous armer.
Voilà, auditeurs de Sud Radio Service compris, vous avez compris le message de Serge Maître, hein, c'est-à-dire cotiser à la FUB, c'est combien ?
Vous venez,
5,
vous venez comme volontaire.
5 euros, 15, 10 euros, non 10
ça
euros.
Ça commence à 10 euros pour ceux qui ont moins de 600 euros de revenus, et ils sont nombreux. Voilà. Rappelons que la moitié des retraités ont moins de 900 euros de revenus par mois. Rappelons que la moitié de la France gagne moins de 1500. Et puis 35 euros et 65 euros, selon, ben c'est un acte volontaire. Et même celui qui peut payer qu'en deux ou trois fois, il n'y a pas besoin de nous le demander, ils le font. Mmh. Car depuis 2 ans, nous avons vu se multiplier les personnes qui payent en 2 ou 3 fois, 2, 3 chèques. Ben oui, parce
même
qu'ils veulent être
euros.
Volontaires,
oui.
Pas pour 10 euros.
Non, pas pour
là,
10 euros,
mais,
pour plus.
Mais beaucoup de gens aussi payent par mandat, parce que les pauvres, ils n'ont plus de chéquier, ils n'ont plus d'amis qui puissent leur faire un chèque. C'est ça aussi, on voit que les liens de solidarité deviennent ténus quand on est dans le besoin, dans les difficultés. Et puis je rappellerai aux uns aux autres, osez connaître vos droits et osez les faire valoir, parce que ça, c'est pas le pot de fer contre le pot de fer.
Voilà, et c'est ainsi qu'on fait de belles émissions avec Serge Maître et qu'on en fera encore tout au long de l'année 2017, non seulement pour faire connaître aux auditeurs de Sud Radio leurs droits, mais en plus la façon de se défendre, hein, vous le faites pour eux. Évidemment, Serge Maître, merci, passez de bonnes fêtes.
À vous
un bon
aussi.
Réveillon, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que le professeur Boyan Christophorov, tout à l'heure, nous évoquait avec beaucoup de malice le droit de cuissage, comme ça, dans les couloirs des hôpitaux, quand il était jeune.
Et c'était à la une fume, boutade, alors, ça reste très dire,
non, mais je vous taquine, écoutez,
donc,
c'est les fêtes.
À la FUB, on fera des réunions parce qu'il y a actuellement les frais et commissions. Ce sont des dizaines de milliers de gens qui s'adressent aux leurs banques. Donc, on va faire des réunions, je pense, non-stop.
Mais c'est vrai que vous avez beaucoup, beaucoup de travail pendant les fêtes, hein, notamment voilà, les frais de tenue de compte et tout ce dont on a parlé sur
Sud
Radio augmente à partir du 1er janvier.
Ouais.
On refera des émissions dans moins d'une semaine, tout simplement. Allez, passez une belle après-midi avec Sud Radio. À demain.